Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin.
Parole de femme.
Nous sommes avec Adissa Mariette Cobré, nutritionniste au Burkina Faso, et Dalila Yaro, entrepreneur socio-culturel également au Burkina Faso. Vous êtes avec nous ici à Washington en ce moment, des visiteuses Yali, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'être avec nous.
Ça fait plaisir, c'est vraiment un réel plaisir pour nous d'être avec vous ici aujourd'hui.
Le plaisir est partagé. Alors dites-nous dans un premier temps, l'une des deux, rappelez-nous un petit peu ce que c'est que le concept Yali.
Ok, donc le concept Yali, donc c'est le Mandela Washington Fellowship qui existe depuis maintenant 10 ans. Donc chaque année, des leaders africains dans les différents pays d'Afrique subsaharienne sont sélectionnés après un processus de sélection vraiment très sélectif. Et donc pendant cette période, pendant un mois environ 700 jeunes leaders sont répartis dans différentes villes aux États-Unis dans 3 parcours, donc civil, civic engagement, public management and business. Et à la fin de ces formations, pendant un mois, on se retrouve tous pour le summit, donc la phase finale à Washington, qui regroupe les 700 leaders, qui nous permettent d'échanger les idées et de développer ensemble des projets pour le développement de l'Afrique.
Merci beaucoup, Dalila Yaro. Adissa Cobré, vous êtes une délégation assez importante du Burkina Faso. Vous êtes combien, là?
Merci pour la parole. Voilà, nous sommes 10 fellows. Du Burkina Faso et réparti sur les 3 tas qu'elle a cité précédemment.
C'est la première fois que vous venez aux États-Unis ou non?
C'est la première fois pour moi.
Pour moi, c'est pas la première fois.
Alors vous, Adissa, comment vous voyez ça, les États-Unis? Parce que c'est impressionnant quand on arrive la première fois, n'est-ce pas?
Oui, c'est impressionnant et on a des attentes très haut placées. Voilà, on fait des découvertes. Mais il y a aussi des mythes qui tombent, voilà, donc...
Dites-nous un mythe qui est tombé, c'est lequel?
Bon, c'est le mythe des aliments. Je suis dans le domaine, parfois on est surpris de voir un aliment très attirant. Dans notre idée, on se dit que c'est quelque chose de sucré. Quand on goûte, il est censé être sucré, mais il est salé en fait. Et parfois, on a des aliments qui sont supposés être salés, qui sont sucrés.
Ça, le salé sucré, le mélange des deux.
Exactement,
un peu.
Oui, voilà, ça, donc...
Effectivement. Alors, Adissa Mariette Cobré, vous êtes justement nutritionniste, hein, et vous travaillez, donc là, c'est beaucoup plus sérieux, hein, c'est beaucoup moins joyeux, n'est-ce pas, la situation au Burkina Faso. On a, avec l'insécurité, tous ces problèmes, hein, d'attaques djihadistes, on a de nombreuses personnes qui ont des problèmes pour se nourrir, hein, les personnes déplacées. Est-ce que vous pourriez nous dresser un plan de la situation, justement?
Bon, présentement, on peut dire qu'il y a un véritable challenge qui est là. Parce que avec les déplacements de population, généralement, en cas de déplacement de population un peu partout ailleurs, comme au Burkina Faso, il y a la perte des terres. Parce que les populations sont essentiellement agricoles, ils font la culture. Et quand ils sont déplacés de leurs terres, ça fait un manque à gagner. Voilà, donc on arrive parfois à avoir des poches de population qui n'ont pas accès à leurs terres pour faire l'agriculture. Donc évidemment, ça peut conduire à des pénuries.
Dalila Yaro, vous travaillez dans la culture, dans le socio-culturel. Qu'est-ce que vous faites en particulier justement dans ce domaine-là au Burkina Faso actuellement?
Donc dans ce domaine, ce que je fais, ma passion même, c'est de raconter des histoires à travers le design d'accessoires, donc de bijoux et d'accessoires, faire replonger la communauté dans le passé, dans l'histoire. Et donc à travers ça, par exemple, je suis aussi experte violence basée sur le genre, donc je lis la culture. Comment utiliser la culture et le design pour lutter contre les violences basées sur le genre. Donc, à travers les séances de sensibilisation et de formation des femmes en milieu reculé, en milieu rural, des formations en entrepreneuriat, voilà.
Donc, ce sont des femmes qui sont intéressées par ce type de création. Et au niveau de l'apport, qu'est-ce que vous leur apportez, par exemple? Parce que pour faire des bijoux, par exemple, il faut du matériel. Donc, comment vous procédez pour ça?
Donc, pour les bijoux, c'est avec du matériel, donc leur montrer quel type de matériel et leur montrer le processus, comment réaliser ces bijoux et comment les vendre un peu dans le processus vers la vente des bijoux et développer une activité
de revenus. Vous avez de très beaux bijoux. Quels sont les matériaux utilisés en particulier pour les faire?
Donc pour les bijoux, donc j'ai commencé avec les bijoux en perles. Donc quand c'est l'apprentissage, je fais l'apprentissage des bijoux en perles. Mais ceux que je porte, par exemple, ce sont des bijoux en bronze. Donc pour les bijoux en bronze, je travaille avec des artisans locaux. Mm-hmm. Donc voilà, en essayant aussi de renforcer leur capacité en termes de qualité.
Adissa Kobré, au niveau de l'alimentation, comment vous travaillez et justement quels sont les besoins en particulier, de quoi on manque exactement comme aliment?
Bon, je ne parlais pas en termes de manque d'aliments. Je dirais plutôt qu'on a besoin de sensibiliser la population sur comment utiliser cette diversité d'aliments, comment tirer profit de tous ces aliments que nous avons. Parce que souvent, c'est le manque de connaissances de comment combiner les aliments pour tirer le meilleur profit nutritionnel. Voilà, c'est surtout ce challenge-là. C'est surtout sur ce challenge que je travaille, en fait. Voilà, comment adapter les aliments aux besoins en fonction de l'âge de la personne, des besoins. Par exemple, on va dire qu'une femme enceinte n'a pas les mêmes besoins qu'une femme qui n'est pas enceinte, par exemple. Et les enfants n'ont pas les mêmes besoins que les adultes. Alors, au Burkina, on a une certaine diversité d'aliments, mais généralement, les populations ne sont pas assez sensibilisées sur comment les combiner pour tirer le meilleur profit. Voilà. Mais il arrive qu'on fasse des émissions, on essaie de sensibiliser, on saisit certaines opportunités aussi de contact du service de santé avec la population pour faire passer certains messages.
Mmh. Ouais. Et vous pouvez nous donner des exemples concrets? Quelle alimentation est la plus courante au Burkina Faso en fonction des régions? Qu'est-ce qu'on cuisine à la maison et comment on le cuisine?
La cuisine burkinabé est assez diversifiée. On cuisine un peu de tout, un peu de légumineuses, des céréales, et cela varie en fonction des régions. Donc on peut dire que chaque ethnie, chaque culture, chaque région a un plat traditionnel. Je ne pourrais pas m'attarder sur ce que je ne connais pas, mais je sais quand même que le haricot est bien consommé. Il y a aussi des mets à base de maïs, d'igname.
De la petite enfance, hein. Justement, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes pour alimenter les enfants. Est-ce que vous vous préoccupez aussi des questions d'allaitement, par exemple? On dit que les femmes africaines allaitent de moins en moins. Est-ce que c'est vrai, ça, ou pas?
Je ne pourrais pas souscrire à cela parce que au Burkina, on a beaucoup de promotion de l'allaitement maternel. On a un programme qu'on appelle Plus Fort avec le lait maternel qui fait participer même les communautaires, certains leaders communautaires à la sensibilisation pour l'utilisation de l'allaitement maternel.
C'est bien que on a tendance à abandonner ça, non?
Présentement, les gens sont en train de revenir à l'allaitement maternel
grâce à votre sensibilisation.
Nous essayons de faire de notre mieux, effectivement, comme je l'ai dit, lors des contacts des systèmes de santé avec les mamans. Mais il y a d'autres programmes qui vont jusqu'en communauté pour essayer de sensibiliser les gens. Et on essaye de sensibiliser de plus en plus avec l'image des enfants bien portants. Parce que généralement, on a tendance à montrer des enfants qui ne sont pas agréables à voir. Mais maintenant, la sensibilisation a changé de visage. On utilise des enfants bien portants pour montrer l'avantage de l'allaitement maternel. Donc, il y a ce changement-là qui fait que beaucoup de personnes adhèrent à cette idée d'allaiter qui est plus économique et moins contraignante. Et surtout, avec les déplacés dont vous avez parlé, l'allaitement maternel, c'est quelque chose de disponible. Même en situation de déplacement de population, le lait est déjà là.
Alors pour cela, il faut que la maman ait une très bonne alimentation aussi, hein, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que vous conseillez aux mamans? en général?
Généralement, on conseille aux mamans de surtout s'alimenter régulièrement, plus que la normale. Si généralement les gens ont 3 repas par jour, on va dire à la maman de manger au moins 5 fois par jour. Les 3 repas plus 2 snacks, ça fait 5 prises alimentaires, voilà. Et de surtout boire suffisamment d'eau, parce que à la base le lait c'est de l'eau. Voilà, donc on va demander à la maman de s'hydrater suffisamment, de prendre beaucoup de fruits, de légumes, voilà, de veiller sur sa santé.
Vous écoutez Le Monde au Féminin sur VOA Afrique.
Dalila Yaro, comment vous avez réalisé finalement qu'il était intéressant, important de lier l'art avec les femmes qui ont eu des problèmes de violence? Qu'est-ce que ça apporte au niveau de la thérapie, justement ce travail manuel en quelque sorte?
Donc déjà, les violences, c'est un sujet vraiment très sensible et il n'est pas toujours évident d'aborder la question avec que ce soit les femmes survivantes ou bien la communauté. Il y a une difficulté à s'exprimer. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que quand on utilise l'art et la culture, ça permet déjà de rassembler la communauté, que ce soit dans des événements culturels et même dans la formation. Le fait de faire quelque chose de manuel, de créatif, ça permet de stimuler la créativité et ça favorise les échanges. Donc ça commence généralement par des échanges informels et ensuite on rentre dans des conversations. Ça favorise vraiment la participation des femmes aux activités de sensibilisation après et autour de ces formations.
Et est-ce que vous arrivez à former des femmes qui après vont peut-être créer leur petite entreprise ou se lancer vraiment dans le métier, voire s'agrandir, embaucher d'autres femmes ou le faire sous forme de communauté?
C'est l'objectif. Donc pour le moment, actuellement, c'est plus des étudiantes, mais dans les prochains mois même à venir, l'objectif c'est de former, que ce soit dans la fabrication de bijoux, mais dans d'autres domaines aussi, comme les cosmétiques, l'artisanat. Donc l'objectif c'est de les former pour qu'elles puissent développer des entreprises. On travaille avec des organisations qui accompagnent les femmes dans la création d'entreprises et la gestion d'entreprises. Donc c'est pour les permettre vraiment de s'autonomiser.
Est-ce que la demande est importante?
Oui. La demande est très importante parce que, en plus, avec le phénomène des déplacés internes, il y a vraiment beaucoup de femmes dans la ville qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont pas surtout le problème, qui n'ont pas de formation, de capacité, donc, pour développer une activité. Donc, ce type de formation-là est de plus en plus demandé. Et on voit, en fait, que quand certaines femmes y participent, elles appellent d'autres femmes autour d'elles qui n'ont pas encore bénéficié de ce type de formation. Elles les encouragent à le faire.
Et vous travaillez dans quel secteur en particulier géographique? Vous êtes à Ouagadougou?
Oui, donc je travaille plus à Ouagadougou et avec l'équipe. Moi, je suis beaucoup plus à Ouagadougou et aussi en Côte d'Ivoire. Certaines activités se déploient en Côte d'Ivoire avec des équipes dans d'autres villes, à Bobo Dioulasso, à Léo, aussi au Burkina.
Adissa Kobré, vous-même, vous travaillez dans quelle région en particulier?
Je travaille au CHR, au Centre Régional Hospitalier de Tinkoudougou. Donc, je suis nutritionniste là-bas et je suis en charge des questions de nutrition pour ce qui concerne tout l'hôpital et aussi je suis sur l'unité de prise en charge de la malnutrition qu'on appelle couramment le CREN.
Donc, les principaux problèmes de malnutrition, ils sont dus à quoi? Quels sont les problèmes particuliers?
Okay, je vais prendre un exemple basique. On a tendance à penser, par exemple, qu'un enfant, il doit manger comme un adulte. Pendant que l'adulte va manger le matin, à midi et le soir, par exemple, on va se dire que l'enfant va manger comme ça. Pourtant, l'enfant, il a d'autres besoins. Il a besoin de manger plus fréquemment en de petites quantités. C'est relatif à son anatomie, à la capacité de son estomac, par exemple. Et ensuite, l'enfant a besoin de certains aliments, par exemple les huiles, les aliments riches en vitamines, que parfois, c'est pas forcément le besoin de l'adulte. Et vous pouvez avoir dans des familles des adultes qui ont des incompatibilités alimentaires et qui ont tendance à les étaler aux enfants, par exemple. Donc, on évite de manger ça et on donne pas à l'enfant. Pourtant, il en a besoin. Je prends l'exemple du lait. Des gens qui ne tolèrent pas le lait, par exemple, ils n'en consomment pas. c'est pas courant, mais il arrive que certaines fois, on essaie de calquer le comportement de l'adulte à l'enfant, ce qui n'est pas adapté. Et parfois, les aliments utilisés pour les enfants ne sont pas parfois appropriés à leurs besoins. C'est ça un peu qui entraîne la malnutrition. Et il y a d'autres facteurs de comorbidité qui sont les maladies, le paludisme, les diarrhées, par exemple.
Est-ce que vous avez des patients qui suivent bien vos conseils, qui ont les moyens de les suivre, et sinon, est-ce que vous les assistez? Parce que bon, la nourriture, la bonne nourriture aussi, ça a un certain coût, n'est-ce pas?
Oui, on peut dire que bien s'alimenter a un coût. Il y a des patients qui sont en mesure de suivre les conseils, les recommandations, et qui ont de bons résultats. Mais il faut dire qu'en général, la malnutrition, la pauvreté est un terreau fertile pour la malnutrition. Il faut le dire. Donc, il arrive parfois que ces enfants soient issus d'un contexte qui favorise la malnutrition. Voilà.
Est-ce que la malnutrition s'est aggravée ces dernières années avec les problèmes sécuritaires?
Plus ou moins, parce que ça dépend des régions. Et avec l'afflux de population, on va avoir un taux élevé de malnutrition forcément, puisque les gens ont abandonné leurs terres cultivables pour se retrouver dans l'incapacité d'avoir accès à de la nourriture, par exemple. Donc, c'est une dépendance qui se crée. Donc, la pression, la malnutrition forcément va augmenter avec l'afflux de population en ville. Voilà. Donc, je vais dire qu'il y a surtout un manque à gagner parce que ceux qui avaient la possibilité de cultiver en étant sur leur terre, ils n'ont plus accès à ça.
Alors, justement, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont des possibilités d'accès à de nouvelles terres? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place pour que ces gens puissent cultiver leurs propres terres?
Effectivement, il y a des projets, des associations qui œuvrent à permettre à ces populations déplacées de faire des cultures hors sol, de participer à des activités génératrices de revenus, donc qui les permettent de subvenir un tant soit peu à ces besoins en attendant qu'ils puissent retourner dans leur localité.
Dalila Yarrow, on va parler un petit peu maintenant finalement de votre rapport aux États-Unis. Donc ce programme, c'est vraiment quelque chose de très important pour vous, hein, on le sait, dans votre carrière. C'est quelque chose qui vous propulse hein, encore plus loin. Et donc quel est ce rapport que vous entretenez avec les États-Unis? Qu'est-ce que vous avez appris ici? Qu'est-ce qui vous intéresse? Où est-ce que ça va vous amener?
En général, le rapport, c'est de, à travers les activités de networking, c'est déjà se connecter aux personnes dans nos différents domaines, garder le contact, développer, apprendre de l'expérience américaine et aussi de l'expérience américaine des activités qui se passent ici et savoir comment collaborer avec les organisations, les entreprises américaines. Et moi, personnellement, dans mon domaine de l'art et la culture, l'un de mes plus gros défis, c'était de travailler sur la chaîne de valeur, comment respecter certaines normes de qualité pour exporter les produits, parce que je produis des accessoires avec des artisans locaux, mais c'était de savoir vraiment comment répondre à certaines normes pour pouvoir exporter pour plusieurs créateurs africains, pas seulement que du Burkina, mais en fait avec les autres fellows du programme, c'était de voir comment ensemble, en tant que créateurs dans le domaine des arts et de la culture, d'exporter nos produits aux États-Unis, donc de travailler avec des partenaires locaux et aussi des boutiques locales qui exposent par exemple des produits africains. Donc c'était aller à la rencontre de ces différentes entreprises.
Vous pouvez avoir de nouveaux partenaires grâce à cela. Vous êtes satisfaite avec
totalement.
Ça?
Totalement. Par exemple, j'ai rencontré un leader dans le domaine de la livraison ici. Les échanges étaient de voir comment permettre de faire livrer les produits du Burkina vers les États-Unis à moins de coûts, parce qu'on a des problèmes souvent de coûts pour faire venir les produits. Donc vraiment, c'était des échanges. C'était vraiment des échanges pratiques. C'était pas que de la théorie, c'était de la pratique, de développement de partenariats.
Est-ce que ce sont des partenariats principalement avec des personnes du groupe Yali ou est-ce que aussi vous avez la possibilité d'avoir des partenariats avec des locaux d'ici des États-Unis?
Non, c'est vraiment des locaux des États-Unis, oui, vraiment, parce qu'on a visité des entreprises américaines. We'll be right back.
Et vous-même, Adissa Cobré, partenariat aussi, qu'est-ce que vous récoltez ici au niveau de la nutrition?
Bon, en termes de nutrition, j'ai eu des rencontres très, très enrichissantes avec des fellows, avec des médecins, avec des mentors qui m'ont coaché dans ce que je voulais faire comme projet. C'est adapter l'alimentation des personnes hospitalisées à leurs conditions, à leurs besoins nutritionnels. Ça veut dire que ça se passe au niveau de l'hôpital et souvent on a du mal à matcher le profil du malade avec l'alimentation qu'il a. Or, on sait tous que l'aliment aussi contribue à la santé. Donc c'est un de mes challenges et j'ai eu à rencontrer pas mal de personnes ressources en termes de nutrition à l'université de Upstate, à l'université de Cornell et aussi à l'université de Syracuse, à l'institut de Maxwell School of Leadership. C'est là où j'ai fait le fellowship.
En bref, qu'est-ce que vous apprenez de particulier dans ces universités?
Pendant 6 semaines, on a appris vraiment à gérer l'administration, puisque à Maxwell, c'est surtout le leadership en management public. Donc, on a réellement appris comment gérer les affaires publiques. Mais avec le networking, j'ai aussi pu travailler le profil santé clinique avec des connexions à l'université de Cornell avec des médecins qui travaillent spécifiquement sur l'alimentation des patients.
Est-ce que vos supérieurs, par exemple à l'hôpital, vont vous permettre justement de mettre à profit toutes ces connaissances, selon vous?
Là-dessus, je pense que je peux compter sur l'accompagnement des structures au Burkina Faso, entre autres les ministères, et l'accompagnement local au niveau de l'hôpital. Je pense que ils ont supporté ma candidature et je pense qu'ils sont prêts à m'accueillir pour l'implémentation de ces projets.
Adissa, au niveau matériel aussi, est-ce qu'il y a des gros besoins au niveau de votre hôpital et au niveau de la médecine au Burkina Faso? On imagine que oui. Est-ce que les États-Unis peuvent vous aider en ce sens? Est-ce que vous avez aussi pu voir ce type de volonté du côté des États-Unis?
Je pense qu'il y a toutes les ouvertures possibles en termes de partenariat au niveau des États-Unis et le besoin en matériel existe dans les hôpitaux. Et particulièrement dans l'hôpital dans lequel je travaille. Et donc j'espère qu'à l'avenir, on pourra avoir des partenariats avec ces différentes structures.
Dalila Yaro, pour terminer également, comment est-ce que vous allez mettre à profit finalement toutes ces connaissances que vous ramenez à la maison et toutes ces rencontres aussi qui sont là dans votre esprit et que vous allez pouvoir exploiter?
Déjà, la première chose ici, c'est pendant ces 6 grosses semaines, on a rencontré tellement de personnes, tellement d'apprentissage que on se retrouve avec plein d'informations en même temps. Donc c'est de retourner à la maison, de s'organiser, d'organiser toute l'information et de mettre en place un plan que j'ai déjà commencé personnellement à mettre en place, de discuter et finaliser les partenariats avec les personnes avec qui j'ai déjà échangé et poursuivre la conversation. Le plus important, c'est de garder le lien avec les personnes que nous avons rencontrées ici, pour ensuite mettre en place les partenariats et commencer les échanges.
Dalila Yaro, je rappelle que vous êtes entrepreneur socioculturel. Adissa Mariette Cobré, vous êtes nutritionniste, toutes les deux au Burkina Faso. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur votre travail et bonne continuation. On vous souhaite vraiment bon courage.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir écouté Le Monde au Féminin de VOA Afrique. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.